place publique.
Ce qui est important, c'est qu'on dépense l'argent qu'on a et surtout qu'on ne puisse pas commencer de prendre dans la caisse.
Vous venez d'entendre le président de Neuchâtel Xamax, Christian Bingli. Il réagissait au sujet des déboires financiers du HC La Chaux-de-Fonds. Nous sommes dans un instant avec Patrick Awart, président du HC Ajoie, avec qui nous débattrons des risques liés à l'argent dans la gestion des clubs d'élite.
Bon, bah rien de mieux que de la grande musique pour parler d'un grand événement, Nadia.
Exactement.
Écoutez bien, parce que dans quelques secondes, il va y avoir les paroles et c'est pas piqué des verres.
Serait raide et dur, je me suis torturé à fond. J'ai mordu dans la sueur, chaque coup que j'ai reçu m'a appris qui je suis. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort, c'est la vie.
Voilà, ce qui ne tue pas le lutteur le rend plus fort. On parle bien sûr de l'hymne officiel de la fête fédérale de lutte, cette fête gigantesque qui a débuté aujourd'hui du côté de Payerne-Estavayer, même en ce moment même. Vous savez, Nadia, que cette fête attire plus de monde que Paléo.
Plus de monde qu'à Paléo, plus de monde que Johnny à Paléo.
Eh oui, plus de monde. Alors on tentera de comprendre pourquoi avec Blaise Delacroza, président de l'association Romande de Lutte. On espère le joindre en direct du tarmac de l'aérodrome de Payerne. Et on entendra aussi l'avis du sociologue de la culture, Olivier Meuchler.
C'était à la maison avec mes parents, quand ça faisait encore le bruit, que ça se déconnectait toutes les 30 secondes.
Ce bruit vous rappelle à vous aussi sûrement quelque chose, peut-être traumatisant. Ces bons vieux modems pour pouvoir surfer sur le web, la toile qui fête ses 25 ans. On va souffler les bougies avec le fondateur du club des aînés en informatique de Delémont, Rodolphe Simon. Il nous prouvera qu'il n'y a pas d'âge pour être connecté.
Jusqu'à 19h, place publique.
Bonsoir Nadia.
Bonsoir Gabriel, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Place Publique, votre nouveau rendez-vous d'actualité du vendredi soir. Dans Place Publique, on parle d'une liaison dangereuse, le sport d'élite et l'argent. Et on parle pas des JO ou de la FIFA, mais des clubs de la région. Deux actualités récentes qui touchent le sport d'élite dans l'arc jurassien, qui ont retenu votre attention, Gabriel.
Oui, il y a tout d'abord cette affaire qui a éclaté la semaine dernière. On a appris que le HC La Chaux-de-Fonds et l'association neuchâteloise de hockey sur glace ont été victimes de leur fiduciaire pour des montants de respectivement 50 000 et 200 000 francs. Et cette semaine, l'ouverture du procès de Boulat Chagaïev, souvenez-vous, le nom de l'homme d'affaires tchétchène qui avait repris les rênes de Neuchâtel Xamax, c'était en 2011, avant de couler quelques mois plus tard le club en creusant une dette de plus de 20 millions de francs. Alors deux affaires qui a priori n'ont rien à voir, si ce n'est que ça concerne des clubs neuchâtelois. Mais en fait, ces deux affaires montrent qu'au niveau de l'élite, les clubs brassent de l'argent avec des budgets qui se chiffrent en millions de francs. Et cela, ça peut nourrir des appétits néfastes ou pousser les clubs à se jeter dans les bras d'hommes d'affaires peu scrupuleux ou carrément malhonnêtes.
Et pour commenter cette actualité, il est temps de retrouver en direct de Port-en-Truy Patrick Awart, président du HC Ajoie depuis 17 ans. Patrick Awart, bonsoir.
Bonsoir.
Vous prenez part au lancement de la braderie dans la cité Ajoulotte ce soir. Vous avez malgré tout accepté de nous rejoindre dans Place Publique pour parler gros sous avec nous. D'abord, merci.
Patrick Awart, merci d'être avec nous. Vous êtes un président heureux, car votre club, on s'en souvient, est devenu champion de Ligue Nationale B la saison dernière. Mais le HCA semble en plus dans les meilleures dispositions pour défendre son titre. En tout cas, si on en croit, la victoire 4-0 hier soir contre le HC La Chaux-de-Fonds.
Alors, oui, bien sûr, mais il faut pas s'enflammer. Il s'agit de matchs de préparation et puis restons les pieds sur terre. Le championnat n'a pas encore commencé. Alors, c'est un bon augure quand même.
Voilà, promis, on va pas trop décoller. On va même garder les pieds sur terre, voire même creuser des trous, des dettes. On imagine que vous avez pris connaissance des mésaventures de votre club homologue de la Chaux-de-Fonds donc, et de l'association neuchâteloise de hockey sur glace. Quel enseignement tirer de cette mésaventure? Est-ce que votre club est à l'abri d'un tel scénario?
Écoutez, comme nous sommes structurés chez nous, vraisemblablement nous sommes à l'abri d'une situation pareille, puisque nous gérons la totalité du budget, aussi bien en tant qu'encaissement qu'en tant que facture. Au HC Ajoie, il n'est pas question d'encaisser de l'argent en cash, tout est comptabilisé, et ça reste dans le cadre du comité directeur et du comité central, et la fiduciaire ou les fiduciaires ont un rôle uniquement de contrôle des comptes, et aucun argent ne transite par d'autres personnes que par le HC Ajoie.
Néanmoins, votre budget, hein, c'est plusieurs millions de francs, 3,5 millions environ. Ça peut quand même ouvrir la porte à des dérives. Il faut une gestion scrupuleuse. Pour vous, elle est en place?
Oui, c'est sûr, il faut une gestion très scrupuleuse. Elle est en place et puis on la surveille aussi parce que effectivement on a, tout le monde a tendance à commander quelque chose sous le nom du club et puis on rend bien attentif tous les fournisseurs que les commandes qui leur sont passées doivent être signées avec des signatures valables qui sont enregistrées au registre du commerce.
Donc là c'est des dispositions mises en place pour les malversations ou pour un petit peu les choses qui seraient un petit peu passeraient sous la table. Quelles autres dispositions vous pensez qu'on peut mettre en place?
Bah écoutez, je pense que, par exemple, réaliser des bons de commande, ça c'est très important, qu'ils soient signés par les représentants du club. Si quelqu'un a besoin de matériel ou si quelqu'un a besoin d'argent, hein, ne serait-ce que pour, par exemple, de la monnaie pour les caisses, où il en faut à chaque match, chaque fois, eh bien, je signe avec le responsable des finances à tous les matchs, et puis on a un décompte très précis de ces caisses.
Alors en parlant de caisse, on peut dire que le titre de champion de Ligue B vous a permis d'engranger des fonds supplémentaires. Est-ce que paradoxalement, le succès financier du HCA peut aussi le fragiliser en suscitant des appétits néfastes justement ou en cédant à la folie des grandeurs?
Oui, c'est sûr qu'il faut bien garder les pieds sur terre parce que ce titre de champion suisse, il est arrivé une fois en 17 ans. Ça fait 17 ans que je suis président. Donc, on a eu aussi des saisons où on n'a pas fait les playoffs, où là, on avait des difficultés financières relativement importantes. On y a fait face. Et puis aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a fait un bénéfice important qui a été déclaré d'ailleurs, qui est de l'ordre de 150 000 francs suisses. C'est pas parce qu'on a fait ce bénéfice important qu'on doit tout dépenser en une saison. On garde les pieds sur terre avec un budget à peu près similaire à la saison passée. Et puis, on va continuer comme ça.
Est-ce que le scénario de l'homme d'affaires providentiel qui a ruiné plus d'un club de football en Suisse romande, il n'y a qu'à penser dernièrement au FC Bienne ou à Xamax, ça revient à l'actualité avec ce procès Chagaïef. Est-ce que ce scénario de l'homme providentiel pourrait aussi se jouer pour un club tel que le vôtre? On imagine que vous allez un jour céder le témoin?
Oui, bien sûr, ça pourrait se jouer, mais au HCA Joie, on fait les choses de manière professionnelle. Donc on a la majorité des actions est actuellement dans une association qui s'appelle HCA Futur, association qui est gérée par 7 personnes. Et si on veut prélever une seule action ou plusieurs actions de cette association, il faut l'unanimité des 7 personnes qui sont présentes. Ensuite, comment passer le témoin? Eh bien, les 7 personnes qui sont là-dedans vont proposer des nouveaux membres, et puis, etc., etc. Ça peut être les fils, les petits-fils, et voilà, c'est notre manière à nous de mettre les actions de l'HCA Joie en sécurité.
Une sécurité que vous venez de nous expliquer. Mais alors, comment expliquer que des grands clubs comme le FC Bienne ou Xamax ont été touchés par des choses comme ça, alors que finalement, on se dit que pour des très grands clubs, finalement, enfin très grands... à l'échelle de la région. Normalement, une mise en place, une structure extrêmement rigoureuse devrait être mise en place.
Oui, bien sûr, mais qu'est-ce qui se passe dans ces grands clubs ou dans nos clubs, hein? Vous avez des saisons, comme je vous l'ai dit, où il y a des difficultés financières. Si vous avez un homme providentiel qui arrive et qui vous promet monts et vaux en rachetant le club, en remettant les finances à zéro et puis en repartant avec des ambitions intéressantes, c'est clair qu'on aurait tendance à dire, on va lui laisser ce club, on va lui vendre ça à ce prix-là, et puis voilà. On n'assure pas la pérennité, par contre.
Est-ce que beaucoup se pressent au portillon? On sait que des empires financiers, ou en tout cas des financiers de l'étranger, s'intéressent aux championnats européens, principalement de football, on est d'accord. Mais est-ce qu'un club comme Ajoie pourrait intéresser au-delà des rangs du tissu économique jurassien? Est-ce que ce serait souhaitable?
Alors, ce ne serait pas souhaitable, mais c'est le cas. Nous avons immédiatement après notre titre de champion suisse reçu des offres de l'étranger pour une participation importante à l'intérieur de notre club. On n'y a pas donné suite parce que...
Ça venait d'où? Des offres qui venaient d'où?
Ça venait du Luxembourg.
Donc votre club intéresse?
Le Luxembourg.
Notre club intéresse beaucoup de monde, effectivement.
Et donc vous tenez la barre et vous empêchez du coup que le club du HCA Joie échappe au tissu économique de la région. C'est aussi une sécurité.
c'est une sécurité, parce que si on est, quand on est dirigeant du HC Agen, on est là pour assurer la pérennité du club. Et puis ce club, le HC Agen, il est destiné à la jeunesse, il n'est pas destiné à en faire un appât financier.
Merci beaucoup Patrick Oert d'être venu répondre à nos questions en direct de Parentruy. On vous souhaite évidemment une très bonne braderie et puis aussi une très bonne préparation de championnat. On se réjouit de suivre à nouveau les exploits de votre club parce qu'on est sûr que c'est un peu dans cette direction que ça va aller. Et on reparlera de tout ça prochainement. Bonne soirée.
Merci, bonne soirée, à bientôt.
Belle soirée, merci. Et nous, eh bien, on prend la direction des informations. On s'informe avec vous, Léandre Béret.
Bonsoir. Hausse des effectifs pour la Haute École Pédagogique Béjune, l'institution qui forme les enseignants des cantons de Neuchâtel, de Berne et du Jura, a admis 296 nouveaux étudiants pour cette rentrée. Les trains vont à nouveau pouvoir circuler entre Boncourt et Delle. La gare de la cité française frontalière avec le Jura reprend du service après 6 mois de travaux. Il s'agit des premiers aménagements réalisés sur la ligne qui permettra de relier Delle à Belfort à fin 2017 et ainsi d'accéder à la ligne TGV Rhin-Rhône. La présidente du gouvernement bernois était en visite à Courtelary en fin de matinée. Béatrice Simon s'est rendue chez Camille Blore dans le Jura bernois. Cette rencontre avec les employés et la direction de l'entreprise entre dans le cadre des vœux de Béatrice Simon d'aller à la rencontre de la population. Et la population suisse a augmenté l'an passé, mais de manière moins forte que les années précédentes. La progression est de 1,1%. 8 327 100 personnes résidaient de façon permanente dans le pays l'an passé. Les cantons de Neuchâtel et du Jura bernois affichent une faible progression de 0,4%. L'augmentation est de 0,5% dans le Jura. La fête fédérale de lutte suisse s'est ouverte en fin d'après-midi à l'aérodrome de Payerne. 250 000 visiteurs sont attendus tout au long du week-end. Les amateurs de ronture ont déjà dû faire preuve de patience pour accéder au site. Des bouchons se sont formés sur les principales voies d'accès. Cristiano Ronaldo et Xherdan Shaqiri seront absents pour la rencontre Suisse-Portugal du 6 septembre prochain, en ouverture des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Le capitaine portugais est toujours blessé. Quant à Shaqiri, il souffre d'une contracture à un mollet et sera tenu éloigné des terrains pendant 4 semaines au moins. La formation YAM Cycling a remporté la 7e étape du Tour d'Espagne. C'est le coureur belge de la formation suisse Jonas van Genesten qui a passé la ligne d'arrivée en premier à Puebla de Sanabria après 158 km. Le Colombien de chez BMC, Darwin Atapuma, conserve le maillot rouge de leader du classement général. Seuls quelques nuages pourraient venir troubler le bleu du ciel demain. Le soleil sera de nouveau largement présent dans le ciel de l'arc jurassien. Côté température, il fera entre 10 et 19 degrés au petit matin. Le mercure oscillera entre 27 et 31 degrés l'après-midi. Excellente soirée.
Place publique.
C'est le plus grand événement sportif et populaire de Suisse et il a lieu tous les 3 ans et tous les 15 ans en Suisse romande. La fête fédérale de lutte et des Jeux alpestres d'Estavayer 2016, bien sûr, on vient d'en parler dans le flash. Eh bien, ça a démarré ce matin du côté du tarmac de l'aérodrome de Payerne. La manifestation doit attirer sous un soleil de plomb plus de 250 000 personnes jusqu'à dimanche. Au niveau de la compétition de lutte, qui est la compétition reine de cette manifestation, eh bien, 275 lutteurs sont en compétition, dont 27 romans qui vont tenter de décrocher le titre prestigieux de roi de la lutte. Et la question qu'on se pose ce soir, c'est pourquoi un tel engouement ? Alors avant de retrouver, si on arrive à le joindre...
On essaye Gabriel.
On essaye de joindre le président de l'association romande de lutte. Eh bien, on vous propose d'écouter tout d'abord Olivier Meuchler. Il est sociologue de la culture et chercheur associé à l'université de Lausanne. Et pour lui, un tel engouement s'explique par la nature même de l'événement qui est au carrefour entre le folklore et le sport.
Si on regarde les concerts de musique folklorique ou de fanfare, ils attirent en Suisse presque un cinquième de la population. Donc là, il y a déjà une sorte de réservoir de gens qui peuvent s'intéresser, disons, à quelque chose de plutôt folklorique. Mais ça tient aussi du sport, de l'événement sportif. Hein, il ne faut pas l'oublier, c'est un sport, la lutte suisse. Et là, les statistiques montrent qu'il y a 50% à peu près des gens qui fréquentent au moins une fois des manifestations sportives, un meeting d'athlétisme ou comme ça dans l'année, donc c'est moins que les musées, c'est à peu près autant que les théâtres, mais c'est quand même pas mal, c'est à peu près la moitié de la population. Et évidemment, cette fête fédérale tient aussi d'une sorte de fête du village, fête de société, fête, cette campagne géante. Et là, les statistiques montrent qu'il y a 80% des gens, bon, c'est une catégorie assez mélangée hein, de fêtes, mais effectivement 80% des gens qui ont été l'une fois ou l'autre à ce genre de fêtes dans l'année. Donc il y a beaucoup de besoins différents finalement qui sont couverts par un événement comme ça, ou qui sont aussi suscités par un événement comme ça, et qui créent un public finalement assez hybride, assez mélangé, assez multiple.
Les régions se battent pour organiser la fête fédérale de lutte qui fait converger encore une fois des centaines de milliers de personnes de toute la Suisse vers un endroit. C'est une formidable vitrine médiatique aussi pour les régions. Or, en 2016, cette fête véhicule aussi des valeurs très traditionnelles. Par exemple, les femmes n'ont pas leur place sur le rond de sciure, elles seront dans le public. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre cette fête, justement, qui véhicule des valeurs ancestrales, parfois antinomiques avec les progrès de la société d'aujourd'hui?
Alors oui, mais je pense que la vie sociale, elle est paradoxale. C'est-à-dire qu'on s'accommode très bien, dans toutes les sociétés d'ailleurs, de paradoxes. Et effectivement, le fait que les femmes soient exclues de ce sport ou de cet événement, enfin, en tant que pratiquantes, et effectivement, tout ce côté extrêmement quand même traditionnel, ancestral, versus un monde par ailleurs extrêmement moderne et rapide et technocratique, au fond, justement, c'est moins un paradoxe qu'une sorte de quête d'un âge peut-être un tout petit peu perdu. D'ailleurs, c'est un événement qui dure deux jours, donc effectivement, je pense que toute l'année, on serait pas tout à fait d'accord d'avoir ça toute l'année. Alors c'est un peu le même principe que le carnaval, où tout d'un coup les valeurs sont inversées. Il y a une rareté en fait, c'est vraiment un moment dans l'année très très délimité dans le temps, et c'est ça qui fait son intérêt. C'est peut-être ça aussi qui fait que ça peut marcher, alors que vous avez raison, les valeurs qui sont véhiculées. Alors il y a des valeurs certes actuelles, je pense, de courage, de force, de volonté de vaincre, etc.
Et d'ailleurs, de fair-play aussi.
Et d'ailleurs de fair-play, parce que il y a toujours ce merveilleux geste très très vraiment très important qu'on a souvent perdu aujourd'hui dans d'autres domaines de la vie, peut-être y compris économique et autres, où on enlève la sciure de l'adversaire qui a été battu, hein, du dos, de son dos. Donc ça, c'est un très très beau geste. Et alors il y a aussi des valeurs justement très positives, je pense, qui sont véhiculées. D'autres peut-être un tout petit peu plus questionnables aujourd'hui, mais je pense que la fête fédérale, elle est là aussi pour ça, pour susciter le débat finalement. Et peut-être qu'une fois on aura une fête fédérale féminine aussi, avec des femmes qui se battent dans la sciure.
Le sociologue Olivier Meuchler, donc, qui s'exprimait au sujet de la fête fédérale de lutte, qui démarre aujourd'hui et qui va véritablement prendre toute son ampleur dès demain. Avec nous, Blaise Delacroza, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'association romande de lutte suisse. Alors, quelle est l'ambiance sur place?
L'ambiance, elle est fantastique. Je viens de sortir de la cérémonie d'ouverture, qui n'est encore pas terminée. Il y a environ 25-30 000 personnes qui assistent à cette cérémonie d'ouverture. C'est une première aussi dans la fête fédérale. Et tout autour, il y a une fois autant de monde. Donc, je pense qu'il y a 50 à 70, 80 000 personnes qui sont déjà sur le site ce soir.
Alors, c'est une fête gigantesque qui se tient tous les 15 ans en Suisse romande. On imagine que c'est pour vous un grand jour aujourd'hui.
C'est un grand jour, ça vous pouvez le dire. Ça fait 4 ans qu'on prépare ce jour-là, pour cette ouverture de la fête. Et toute la Romandie, on attendait ce jour-là, puis maintenant, on y est.
27 lutteurs romands sur 275 compétiteurs, on a l'impression qu'on peut mieux faire.
Alors disons que les compétiteurs sont répartis en fonction des nombres de licenciés par association. Et puis nous, il y a environ 3000 licenciés en Suisse, la Suisse romande en a 300. Donc ça correspond au chiffre que nous avons. Donc les 27 lutteurs sont un nombre justifié par rapport à l'ensemble des compétiteurs.
Alors, est-ce que Estavayer 2016 hein, peut contribuer à un petit peu plus populariser ce sport ancestral en Suisse romande?
Donc c'est un de nos objectifs aussi que nous avons fait, sitôt que nous avons eu la fête fédérale, c'est de continuer et de faire perdurer cette tradition dans nos cantons romands. C'est pas évident, c'est sûr, mais maintenant on va essayer de profiter avec toute la visibilité qu'on aura ces trois jours à venir.
Comment expliquer, on a entendu le sociologue hein, qui avait sa réponse, mais comment vous expliquez que malgré le fait que ça reste un sport quand même relativement confidentiel, en tout cas si on le compare au football, au hockey, comment vous expliquez un tel engouement? C'est l'événement sportif le plus populaire de Suisse.
Ouais, c'est un peu difficile à expliquer. Déjà on se rencontre une fois tous les trois ans, une fête comme ça, et je pense que la popularité de la lutte, en tout cas en Suisse allemande, elle est telle que chacun attend le couronnement du roi, hein, c'est ce qui va se faire dimanche soir. Et c'est je pense, là que vient aussi cet engouement du public. Je ne sais pas si vous entendez derrière moi, là, des applaudissements dans l'arène. Moi, je suis à 50 mètres de l'arène.
On n'entend pas, mais on devine une clameur, mais c'est vous qui nous la faites vivre.
Alors justement, des tribunes composées de femmes, puisqu'elles n'ont pas le droit de combattre dans la sciure, est-ce que ça va changer? Est-ce que ça peut changer ou est-ce que ça doit changer selon vous?
Donc, ça peut changer. Il faut qu'on discute avec l'association féminine. Il y a un certain point de divergence entre les deux associations.
Par exemple,
je pense comme tout.
Qu'est-ce qui divise les femmes et les hommes au sujet de la lutte?
Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de la lutte féminine.
Mais ça existe.
Ça existe, oui. Ça existe. Les règles ne sont pas tout à fait les mêmes, si je m'abuse. Et puis, je ne connais pas vraiment les règlements des femmes. Je ne peux pas trop vous aider.
Elles n'ont pas de culotte, elles.
Elles n'ont peut-être pas de culotte. Mais en tout cas, vous n'allez pas pouvoir.
Elles portent la culotte aussi, oui.
Ah, quand même, vous me le rassurez. Ouais. Parce que sinon, Nadia, elle aura de la peine à s'y mettre, je pense.
Je crois
quand même. Non, mais elle peut commencer.
Donc, par rapport à l'évolution de ce sport, qui reste quand même assez ritualisé, conservateur, on a parlé de la place des femmes, qui pour l'instant n'existe peu ou pas du tout lors de cette fête fédérale. Quelles autres évolutions sont en cours pour ce sport?
Donc, il y a l'argent qui commence à venir dans ce sport, déjà depuis quelques années. Et pour l'instant, donc, l'association fédérale, on maîtrise donc, ce flux d'argent. En le tenant à l'extérieur de l'arène, si on veut. Il n'est pas visible, vous le verrez ce week-end, donc sur l'arène, il n'y a aucune publicité. Les lutteurs sont exempts de publicité aussi pendant qu'ils luttent. Par contre, c'est vrai que par après, les lutteurs, ils ont des sponsors qui peuvent mettre en dehors de l'arène. Puis ça les aide à se préparer comme il faut et puis à se professionnaliser. Donc il y en a une bonne partie, je dirais une quinzaine, une vingtaine de lutteurs qui ont tant de travail entre 50 et 80%.
Alors justement, ce ne sont pas des sportifs pro complètement, et pourtant on est ici dans le sport business, c'est assez paradoxal là encore.
Le sport business, il y a 50 000 personnes autour d'une arène, il y a des sponsors à n'en plus finir.
Il y a des supermarchés toute la Suisse qui...
Oui, non, c'est sûr, les lutteurs, ils ont évolué aussi dans leur manière de pratiquer leur sport. Par contre, la fête en elle-même, c'est devenu un business, comme vous dites. On discutait avec des gens qui étaient à Sion, donc en 1986, à la fête fédérale. Il y avait une arène, 32 000 personnes, puis un budget de juste 1 million, même pas. Aujourd'hui, on est à 30 fois plus cher. C'est sûr, mais il y a la grande fête autour de la fête.
On sait, hein, quand il y a par exemple la FIFA qui organise la Coupe du Monde de football, eh bien beaucoup de l'argent des bénéfices arrive dans les clubs, au final, par le biais des fédérations nationales de sport. Est-ce que tout cet argent qui est brassé autour de cette fête fédérale de lutte va finalement rejoindre vos canaux et pouvoir les irriguer pour que vous vous développiez, pour qu'on voit s'ériger un peu partout des stades de lutte?
Oui, tout à fait. Donc l'organisateur verse une redevance à l'association fédérale qui après va leur distribuer aux associations régionales et qui après va faire utiliser cet argent pour le développement de la lutte et le soutien des lutteurs et des clubs distincts.
Un pronostic pour votre part? On dit que c'est les Alémaniques qui sont vraiment qui accaparent la compétition. Est-ce que le Gruérien, par exemple, Benjamin Gapani, qui faisait quasi la une des journaux ce matin, a ses chances?
Alors, je ne veux pas dévaluer la valeur de mes lutteurs, mais je pense que pour le titre suprême Croix de la lutte, celui qui parie sur Benjamin Gapani va gagner, je pense, beaucoup d'argent. Mais il va bien figurer dans le classement, ça j'en suis persuadé. Et puis le titre va encore rester cette année en Suisse allemande. Ça va se battre entre les deux rois, donc Sempach et Wenger. Et il y a les jeunes loups qui arrivent derrière, Kaiser, donc le fils aussi d'Adrien Kaiser, qui était roi de la lutte. Et deux jeunes de la Nordoche, Samuel Giger et Armand Orlik, qui sont aussi, je pense, dans les 5 favoris.
Merci beaucoup en tous les cas d'avoir été avec nous, Blaise de la Croza. Vous êtes donc le président de l'association romande de lutte. Vous vivez le grand moment, à savoir cette fête qui a lieu tous les 15 ans en Suisse romande. Et on vous souhaite bien sûr une très belle compétition et de vibrer au spectacle de ces lutteurs qui sont, comme on l'a bien compris, tous des hommes. Bonne soirée.
Merci bien. Au revoir, bonne soirée.
Place publique.
Mardi dernier, nous avons fêté les 25 ans du web. Le web qui a révolutionné notre quotidien, nos habitudes et notre manière de communiquer. Accessible à tous, Internet est devenu presque un membre de notre famille, tellement il est devenu indispensable pour les jeunes générations. Les plus vieux s'en servent aussi. Pour en parler avec nous ce soir, Rodolphe Simon, bienvenue.
Voilà, bienvenue, merci de m'accueillir.
Et vous êtes le fondateur de CAID, qui est l'acronyme du Club des aînés en informatique de Delémont.
Alors, une petite mise au point. Le Club CAID a été effectivement fondé en 1997 par une équipe de passionnés. Ils étaient une douzaine au départ. J'ai repris environ en 2000.
Vous n'êtes pas le fondateur, vous êtes le responsable.
Voilà, quelques-uns des fondateurs ne sont d'ailleurs plus là. À l'époque, ils étaient 15 et aujourd'hui, nous sommes 250. Ça a pris des proportions telles que nous avons dû mettre en place une petite structure. Autrement dit, le CAID est dirigé par une équipe d'animateurs, une douzaine d'animateurs qui se partagent les différentes responsabilités de toute cette belle aventure.
Alors, 250 participants, des gens qui n'ont pas le droit de faire partie du club s'ils ont moins de 60 ans. Quels impacts a le web dans la vie de personnes âgées, hein, comme vous, qui ont entre 60 et 100 ans, justement?
Ah là, vous ne prenez pas de risque, Nadia. Hein.
Non.
Bah, écoutez, j'ai toujours entendu parler de fracture générationnelle. J'ai des enfants, des petits-enfants qui sont beaucoup plus habiles que moi sur le clavier. Et je trouve précisément que ce n'est pas un outil de fracture, mais ça doit être un outil de réconciliation, peut-être, entre les générations. En tout cas, un outil formidable de communication.
En tout cas, les personnes âgées dont vous vous occupez, est-ce qu'elles sont, comme le nom de votre association l'indique, des caïdes du web ?
Au départ, bien entendu, il y avait quelques mordus qui avaient déjà dans leur métier, dans leur profession, travaillé avec des ordinateurs. Mais aujourd'hui, je dois dire, la majorité des gens qui viennent nous trouver sont nouveaux. Ils ont découvert ça soit en famille, soit par relation. Et ils vont acheter le dernier né des portables,
des téléphones
nécessaires, téléphones, voilà, et ils viennent au CAID.
Rodolphe Simon, je vous propose de maintenant écouter ceux qui se souviennent de la naissance du web, comment ça a un peu changé leur vie. On en a rencontré quelques-uns et ça vous inspirera sans doute une réaction.
C'était à la maison avec mes parents. Quand ça faisait encore le bruit, que ça se déconnectait toutes les 30 secondes. J'étais tout petit, hein. Je cherchais des images, j'essayais de télécharger de la musique, ça prenait deux jours et puis ça, c'est à peu près tout.
Internet à 25 ans.
Mon anniversaire.
Vous vous souvenez de votre première utilisation d'Internet ?
Caramel.
C'était surtout ça, le site d'une rencontre. Caramel, voilà.
Parce que t'es MSN et puis et tout, quoi. Ça ne rajeunit pas, tout ça.
Mes premiers souvenirs d'Internet, c'était vraiment remplacer les vieux fax par les emails. C'est ça mon souvenir.
Je me souviendrai surtout des premières chansons qu'on téléchargeait gratuitement. Ça, c'était bien, ouais.
Il y a quasi une pointe de nostalgie.
Ah oui, bien sûr. Je dirais que c'était encore plus libre au début que maintenant. Ce qui est très bien aussi pour la sécurité.
À partir de quand vous avez compris que Internet avait changé votre vie ?
Je pense que c'est les voyages. Faire des voyages et choisir les voyages et avoir un horizon un petit peu plus ouvert à explorer grâce à Internet.
Bonne question. Une fois que j'ai déménagé, je pense que j'ai eu mon appartement et qu'on pouvait commencer à chatter, à échanger certaines choses par ce biais.
J'ai pas du tout d'Internet. Et puis j'ai pas envie. C'est trop tard.
Vous savez qu'Internet a 25 ans, donc vous allez attendre encore 25 ans pour vous y mettre ?
Alors dans 25 ans, je ne serai plus là, mon cher. Oui, non. Non, mais mes enfants ont. Alors c'est bon, si j'ai besoin de quelque chose, c'est tout bon.
Comment vous imaginez Internet dans 25 ans ? Qu'est-ce qu'il permettra de faire de plus qu'aujourd'hui ?
Ah, pour moi, ce sera des implants. On sera connectés en permanence et ça fera partie de notre réflexion, de nos pensées directement. On sera intégrés au réseau.
Alors, on a entendu ce que ça peut évoquer aux gens simplement dans la rue, première fois qu'il y a eu Internet, les premiers moments. À vous, quel souvenir ça vous évoque ?
Oh, écoutez, moi j'étais boulanger au Franche-Montagne et je me souviens quand même des années de guerre ou juste après la guerre où il y avait 3 téléphones au village. 3 téléphones avec fil, bien entendu. Si je mesure le temps qui a passé depuis, c'est environ 50 ans, et puis le formidable développement et l'impact qu'a pris cette nouvelle communication, je ne peux être qu'abasourdi. La communication aujourd'hui, c'est l'outil qui permettra de gérer la société de demain, j'espère avec un bon sens qui manque souvent dans les décisions que prennent nos responsables. Mais le bon sens, à mon avis, s'il est maîtrisé par les responsables qui tiennent les rênes aussi bien des décisions politiques que des décisions dans ce domaine très pointu de l'informatique, je n'ai pas peur de l'avenir.
C'est bien d'être serein, en tout cas on entend bien votre mise en garde, c'est vrai que c'est un sacré outil et que ça nécessite évidemment des adaptations et de la surveillance. Maintenant vous-même, Internet à votre âge, vous l'utilisez pour quel genre de prestations ? Qu'est-ce que vous venez chercher, ainsi que les aînés dont vous vous occupez ? Qu'est-ce que les aînés vont chercher aujourd'hui sur Internet ?
Alors, en premier naturellement, puisque par définition le CAID c'est un retraité, mais je dirais que c'est devenu un retraité actif, puisque tout ce qui a trait au domaine de l'Internet, aussi bien l'accession, les voyages, allons, citons en quelques-uns, les voyages, les télécommunications, la musique, la photo surtout, la gastronomie, je suis un fan de ce thème-là.
Donc on se fait plaisir sur Internet quand on a du temps, et puis on essaye aussi de l'utiliser sur Internet pour ses loisirs principalement, ou ça va même plus loin pour la santé, pour les paiements, pour... Est-ce que les aînés vont volontiers explorer d'autres terrains que les loisirs ?
Ah oui, nous réunissons chaque lundi. Une fois par mois, nous invitons un conférencier externe au CAID, donc il est forcément plus jeune et il est actif dans un domaine très pointu. Par exemple, nous avons invité un professionnel de la santé de la République et canton du Jura qui est venu nous présenter la nouvelle carte médicale qui sera un objet courant dans les années qui viennent. Donc ça, c'est, vous voyez, une manière d'informer nos gens. Prochainement, nous aurons la visite de la police cantonale qui viendra nous remémorer les règles élémentaires de la circulation, parce que je pense bien que les caïds aujourd'hui, s'ils devaient passer leur permis de conduire, je doute que tout le monde aurait la carte bleue. Hein. Alors tout ça, c'est l'informatique nous permet de nous ouvrir d'une manière imagée, d'une manière plus ou moins directe, d'une manière, je dirais, c'est presque un amusement à ces technologies, à travers la technologie moderne, à tous ces événements de la vie qui nous amusent. Hein, à partir de 65 ans, c'est plutôt une découverte amicale ou un amusement qu'un objet de travail quotidien.
Alors justement, vous avez pointé quelque chose du doigt tout à l'heure, les cartes de crédit, les paiements sur Internet. Est-ce que pour vous c'est fiable ou est-ce que c'est une arnaque quand on sait aussi que voilà, il faut quand même bien maîtriser le programme pour pouvoir payer en ligne. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez et que vous donnez conseil d'utiliser ?
Vous savez, je suis mal placé pour donner des conseils à mon âge.
C'est des préoccupations des aînés, la sécurité sur Internet, notamment pour les paiements.
Je fais plutôt part de quelques expériences, mais on n'y échappera pas. Voyez-vous, je me souviens en 1994, j'ai eu la chance de participer au championnat du monde de football aux États-Unis. Donc ça fait voilà, plus de 20 ans aussi. Et ce qui nous a étonnés, nous entrions au stade, nous étions obligés, c'était dans les devoirs du bon supporter, d'avoir deux bouteilles d'eau minérale. Bref, nous préparions les petits cents, les dollars, pour payer ces bouteilles. Paiement par numéraire interdit. On nous obligeait en 94 déjà à payer avec une carte de crédit. Figurez-vous la distance entre ces 94 et aujourd'hui, puis surtout chez les Américains, c'était déjà monnaie courante, si je puis dire, le paiement par crédit. Donc ça, on n'y échappera pas. Vous dire que c'est un bien, pour moi, je ne me prononcerai pas là-dessus, mais ce sera... je crois que les générations qui viennent devront obligatoirement passer par là.
Alors finalement, une toute dernière question très rapide. La question cruciale, Rodolphe Simon, êtes-vous Mac ou PC ?
Oui.
Ah, c'est la question à laquelle je ne m'attendais pas, mais je suis et Mac et PC, parce que je crois que d'ici quelques années, on parlera plus de Mac ou de PC. Les deux deviendront des outils compatibles.
Des packs.
Alors, je suis aussi bien amoureux des Maceuses que des PCistes.
Ah ben, on retient cette formule. C'est bien d'être amoureux, c'est par l'amour qu'on progresse. Merci beaucoup, en tout cas, Rodolphe Simon, d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir prouvé que Internet et les générations plus âgées, eh bien, ça fait qu'un.
Merci et bonne soirée.
Et pour nous, eh bien, Place Publique prend fin, Gabriel. Déjà, je suis triste.
Ça passe très vite quand on est en bonne compagnie, c'est clair.
Exactement. Et si vous souhaitez retrouver l'intégralité de cette émission, c'est possible tout à l'heure sur nos sites internet rjb et rfj.ch. Et on se retrouve dès la semaine prochaine. Excellent week-end et au revoir.
Au revoir.
Place Publique.